La vie s'est développée comme un véhicule pour la conscience. Stuart Ameroff, bienvenue au festival Aulégisme.
Merci, Ricky, c'est génial d'être ici. J'ai passé un moment merveilleux.
Anesthésiste à la retraite et chercheur en conscience. Qu'est-ce qui fait que votre théorie de la conscience est la meilleure du monde? C'est la seule qui fonctionne vraiment. La plupart des autres théories sont basées sur le fait que le cerveau est un ordinateur complexe de neurones simples. Ce que j'appelle des « neurones de dessin animé » parce qu'ils ne regardent que la membrane, l'activité membranaire et les synapses. Et c'est algorithmique et c'est à une fréquence, comme entre 0 et 40 Hz, à peu près. Alors que si vous allez à l'intérieur du neurone, vous voyez ces microtubules qui traitent l'information à plusieurs fréquences. Par exemple, non seulement le Hz, mais aussi le kilohertz, le millier de Hz, le mégahertz, le million, le gigahertz, le milliard et le terahertz, le trillion, et même plus vite. Et tous les trois ordres de grandeur, nous voyons des modèles de résonance qui sont très auto-similaires. C'est comme une fractale ou en fait un cristal temporel, comme les appelle mon collègue Honor Bond qui a découvert tout cela. Nous avons donc tout ce traitement d'information qui se déroule à un niveau plus profond. D'autres théories traitent les neurones comme de simples interrupteurs marche-arrêt, ce qui est une insulte aux neurones, car des cellules comme le paramyum peuvent nager, trouver de la nourriture, avoir des relations sexuelles. Elles sont une seule cellule. Caractériser un neurone comme un bit, un 1 ou un 0 est donc une insulte énorme aux neurones. C'est donc plus qu'un ordinateur, un très bon ordinateur ou la conscience est-elle non informatique? Je pense que la conscience elle-même n'est pas calculable. C'était l'une des contributions de Roger Penrose. J'ai donc passé 20 ans à étudier les microtubules et à les modéliser comme des dispositifs de traitement de l'information comme des ordinateurs, des automates moléculaires. Et cela a considérablement augmenté la capacité d'information à l'intérieur du neurone. Donc les spécialistes de la singularité et d'autres considéraient l'équivalence cérébrale comme 100 milliards de neurones oscillant à 100 Hz avec un millier de synapses, soit environ 10 opérations sur 16 par seconde pour l'ensemble du cerveau. Ils disaient donc, eh bien, lorsque nous aurons un ordinateur capable d'effectuer 10 opérations sur 16 par seconde, nous aurons une équivalence cérébrale et une conscience. Et je leur disais, non, 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 il y a tout ce traitement d'information à l'intérieur. Il y a donc en fait 10 opérations sur 16 par seconde par neurone au niveau microtubial. Il faudrait donc multiplier cela par 10 sur 11. Vous sous-estimez donc largement la capacité cérébrale et votre cible est donc bien plus en aval. Et il n'aimait pas du tout ça parce qu'il voulait alors avoir une équivalence cérébrale. Mais un jour quelqu'un m'a dit, « Ok, disons que tu as raison et qu'il y a tout ce traitement d'information. Comment cela expliquerait-il la conscience, tu sais, les sentiments, l'amour, la joie, la couleur rose, tout ça ?» Et j'étais un peu abasourdi et j'ai réalisé que j'étais réductionniste. Heureusement, cette personne m'a suggéré de lire le livre de Roger Penrose, The Emperor's New Mind, dans lequel il soutient que la conscience n'est pas calculable, qu'il y a quelque chose au-delà du calcul qui n'est pas algorithmique, car si c'est algorithmique, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de créativité. Nous allons simplement nous baser sur ce qui s'est passé avant, ce qui est très ennuyeux et très limité. Et il a dit non à l'époque, cela implique un effondrement quantique de la fonction d'onde due à la gravité quantique connectée au niveau fondamental de la géométrie de l'espace-temps de l'univers. Et lorsque cela se produit, cela introduit un autre facteur qui ressemble en quelque sorte aux valeurs platoniciennes intégrées dans l'univers et c'est ce qui vous donne la conscience. Donc, c'est non calculable, c'est aussi une information beaucoup plus dense. Donc, j'adore le livre. Je ne comprenais pas beaucoup le quantique, mais j'ai décidé que je devais le découvrir. Et mais Roger n'avait pas de mécanisme de structure, il avait le mécanisme, il n'avait pas la structure et il avait besoin de quelque chose au niveau quantique beaucoup plus petit que les neurones. Alors je lui ai écrit et lui ai suggéré les microtubules dont il n'avait jamais entendu parler. J'avais écrit un livre à ce sujet et de nombreux articles et je lui ai envoyé des informations et je lui ai dit que j'allais être en Angleterre pour une conférence et que je serais heureux de venir à Oxford pour les expliquer et il a dit super. Il m'a répondu par un courrier à l'ancienne, par la poste et alors je suis allé lui rendre visite à Oxford et c'était une journée formidable pour moi et c'est lui qui a fait la plupart des conversations. Il m'a posé des questions sur les microtubules et j'ai continué encore et encore. Il m'a dit qu'il allait à une conférence à Cambridge avec les philosophes bien connus Dan Dennett et Pat Land sur la conscience et j'ai dit que j'adorerais y aller mais je dois aller à une autre réunion. Alors il m'a remercié beaucoup, nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes dit au revoir. J'étais assez content d'avoir rencontré Roger Penrose et je pensais que ce serait la fin de tout ça, mais 2 semaines plus tard, j'étais de retour à Cambridge et j'ai dîné avec un ami. Il m'a dit, eh, je suis allé à cette conférence à Cambridge et Roger Penel parlait de vous et de vos stupides microtubules. Et j'ai dit, waouh, et c'était un plaisir. Et peu de temps après, j'ai été invité à une réunion en Suède à laquelle il participait et nous nous sommes rencontrés. Nous avons commencé à discuter de la façon dont nous pourrions appliquer sa réduction objective, c'était le nom de son effondrement, aux microtubules. Et ce fut le début de notre théorie. Donc la réduction objective est l'effondrement par superposition, mais du côté du sujet. Non, non, non. Alors, comment ça marche? Beaucoup de gens? Donc c'est le problème de mesure en mécanique quantique. Vous avez la superposition, mais nous ne voyons pas les positions super. Nous voyons tout dans des états définis. Alors, comment les multiples possibilités se réduisent ou s'effondrent à des états définis et ce n'est toujours pas vraiment bien connu? Il y avait une théorie et il y en a toujours qu'un observateur externe, un observateur conscient regarde la position superbe et cela provoque l'effondrement. Mais cela met la conscience en dehors de la science. Ce n'est pas une explication pour la science et cela n'explique pas vraiment la superposition. Roger a expliqué la superposition comme quelque chose peut être dans plusieurs états en même temps en utilisant la relativité générale d'Einstein. Einstein a dit que les grands objets comme le Soleil courbaient l'espace-temps ou l'équivalent des courbures de l'espace-temps et que cela pouvait courber la lumière d'une étoile lointaine et cela a été prouvé par Eddington et qui a remporté le prix Nobel. Einstein avait déjà la sienne et Roger a appliqué cette courbure à de minuscules particules comme les particules quantiques. Il a donc dit qu'une particule quantique ici serait une minuscule courbure dans cette direction. Si elle est ici, ce serait dans l'autre sens. Et la superposition serait des courbures dans des directions opposées, ce qui est fondamentalement une séparation dans la géométrie de l'espace-temps. Et si elle devait continuer, vous pourriez imaginer que chacune formerait son propre univers, ce qui est une autre théorie de l'effondrement appelée plusieurs mondes, où chaque possibilité continue à former son propre univers. Mais il a dit que les séparations étaient instables et qu'après le temps T, elles se réduiraient à l'une ou l'autre. Et cela était dû à la propriété intrinsèque de la géométrie de l'espace-temps et la sélection de celle-ci ou de celle-là ne serait ni aléatoire ni algorithmique mais inclurait un facteur non calculable basé sur des valeurs platoniciennes intégrées dans la géométrie de l'espace-temps. Donc quelque chose dans l'univers influençait ces décisions, si vous les preniez consciemment, si elles étaient conscientes. Et donc la forme platonicienne est la conscience. La forme platonicienne est une influence, vous pourriez la voir de cette façon, mais je la vois comme une influence qui va décider de ce que vous allez faire. Allez-vous faire A, B ou C? Et vous êtes dans une position privilégiée pour ce que vous allez commander sur un menu ou ce que vous allez faire de votre vie ou de toute décision en fait. Et la décision se résume à toutes les possibilités qui se réduisent à une seule et cela pourrait être influencé par la valeur platonicienne. Donc, idéalement, ce serait que vous fassiez ce qui est juste, que vous fassiez du bien, que vous suiviez la voie du Tao, la guidance divine. Vous pourriez le voir comme ça. Mais fondamentalement, c'est une influence qui vous oriente dans une direction plutôt que dans une autre. D'accord? Et j'ai vu que vous vous décriviez comme un bouddhiste quantique et que vous veniez de mentionner le Tao. Donc je me demande, mais vous avez aussi mentionné une sorte de désir de rester scientifique et je me demande donc ce genre de spiritualité. Ce genre de, je veux dire, cela semble proche de l'idéalisme, mais mélangé à une sorte de fondement scientifique également. Comment ces deux types d'interactions se produisent-ils pour vous? Ouais. Eh bien, je pense que vous savez que certaines choses spirituelles vont se révéler vraies. C'est juste que sans explication, elles ne sont pas considérées comme de la science. Donc, si nous avions une explication, elle pourrait être, la conscience elle-même était, vous savez, quand je me suis lancé dans ce métier, il y a plus de 30 ans, la conscience, c'était tabou, vraiment, et, nous, vous savez, je pensais que cela devrait être dans le courant dominant, de la science. En tant qu'anesthésiste, j'étudiais comment l'anesthésie enlève la conscience, et je pense toujours que c'est la meilleure façon de comprendre la base scientifique de la conscience en comprenant comment fonctionne l'anesthésie. Et c'est incroyable que l'anesthésie fonctionne sur tous les animaux et même sur les plantes. Et cela suggère qu'ils ont tous une certaine conscience et qu'ils agissent tous de la même manière. Nous le savons parce que si vous pouvez corréler leur puissance à endormir n'importe quel animal ou humain avec leur solubilité dans un paramètre de solubilité particulier qui est dans le cerveau, on l'appelle la région non polaire. Donc, tout le monde dit que le cerveau est trop chaud, humide et bruyant, ce qui empêcherait les événements quantiques parce qu'ils doivent se produire en laboratoire, ils sont réalisés à une température zéro absolue pour éviter la décohérence. Et le cerveau est composé à 70% d'eau, le corps est composé à 70% d'eau. Mais, dans ces 30% restants, il y a des choses comme des protéines et des microtubules dans lesquelles se trouvent des cycles aromatiques comme les cycles benzène ou indole. Et eux, on les trouve dans les neurotransmetteurs actifs et les psychédéliques par exemple et les acides aminés aromatiques. Il y a donc cet environnement dans la protéine enfouie à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau. L'huile et l'eau ne se mélangent pas et ce sont des molécules semblables à de l'huile. Donc ce n'est pas humide. C'est chaud mais ce n'est pas bruyant parce que les microtubules oscillent de manière cohérente à plusieurs fréquences. Ils sont en quelque sorte comme un cristal temporel. Donc cela contourne le problème de la décohérence et permet à la conscience, nous pensons, et même à la localité, car si vous allez eux si vous êtes si les effondrements se produisent à une fréquence plus rapide, vous serez eux plus petit que la matière dans certains cas et plus rapide. Et donc la conscience pourrait exister indépendamment de la biologie en fait. Et je pense que cela va dans le sens de l'idée de Roger selon laquelle ces événements protoconscients se produisent ici, là et partout dans la table dans l'air. Et ces événements sont protoconscients parce que tout qualia ou toute expérience serait aléatoire, déconnectée, sans mémoire, sans contexte, sans signification. Donc, ils vont et viennent. Métaphoriquement, ils sont un peu comme les sons de musiciens accordant leurs instruments avant une symphonie et c'est une sorte de bruit et vous entendez tous les sons puis ils commencent à jouer et c'est de la musique. Donc, c'est la différence entre le bruit protoconscient dans l'environnement et le type de conscience que nous avons. Qu'entendez-vous par protoconscient? Désolé. Protoconscient serait ce qui se passe lorsque des effondrements se produisent dans un environnement aléatoire, dans l'air et la table, et ainsi de suite. Il y aurait des qualia, un aspect de l'expérience. Un peu comme les psychistes disent que tout a une composante d'expérience, mais les psychanalystes, attache ses qualia à un atome ou à une matière d'une certaine manière. Et c'est un problème parce que la conscience est dynamique. Je pense que c'est une séquence d'événements. Mais Roger l'a mis dans le processus d'effondrement, qui est un événement. Et puis vous avez une séquence de ces événements pour vous donner un flux de conscience, une chaîne d'événements. Mais ce n'est plus protoconscient parce qu'ils sont orchestrés et qu'ils ont des informations, un contexte, une signification et une mémoire. C'est un peu comme de la musique par opposition à un bruit aléatoire. Il y a donc une chaîne d'événements qui mène à la conscience. Oui. Et dans un corps humain, ces événements sont en quelque sorte orchestrés dans une structure cohérente. Mais ces événements se produisent en quelque sorte de manière aléatoire partout. Ils peuvent se produire de manière aléatoire partout. Mais dans le cerveau, dans les microtubules, au moins dans les cellules paraméales de la couche 5 d'où je pense que vient principalement la conscience, ils sont hautement orchestrés et organisés pour donner un contexte significatif et des souvenirs également stockés dans les microtubules, semble-t-il. Donc, vous pouvez avoir le type de conscience que nous avons comme une séquence d'événements qui apparaît continue, un peu comme un film ou une vidéo qui apparaît continue même s'il s'agit en fait d'une séquence d'images. Je me demande donc comment prouver cette théorie et il semble que l'anesthésie soit une méthode pour couper la conscience et ensuite vous pouvez tester physiquement si la conscience est présente, mais la conscience est évidemment notoirement inobservable et les gens ont l'expérience d'être conscients même sous anesthésie. Attendez une seconde, est-ce que cela n'arrive pas? Cela arrive rarement. C'est généralement une erreur de pilotage, ou pas nécessairement excusable, mais non, c'est un problème très rare. Cela peut arriver, et vous avez raison, nous ne pouvons pas mesurer la conscience, mais nous pouvons mesurer ce qui disparaît lorsque vous anesthésiez quelque chose. Donc, nous recherchons maintenant des signes de conscience dans des molécules simples provenant de sources extraterrestres, car nous pensons que la vie et la conscience viennent de l'espace, de ces molécules fabriquées par les étoiles. Ce sont les mêmes anneaux aromatiques, la même chimie organique qui est dans notre cerveau, qui sont produits par les étoiles, et ils sont presque partout dans l'univers. La poussière interstellaire est pleine de ces anneaux aromatiques. On peut le dire grâce aux fluorescents, dans les météorites qui se sont écrasées sur Terre, et dans les sondes qui vont vers les astéroïdes, et y compris celles envoyées par mon collègue, Dante Loretta, de l'Université d'Arizona, vers l'astéroïde Bennu, qui a ramené des matériaux qui ont des molécules organiques, des cycles polyaromatiques, qui sont très, très intéressants, et ils ont aussi mes cellules, qui pourraient avoir été à l'origine de la vie sur Terre. Donc je pense que ces aromatiques sont la clé de la vie, ils sont la clé de la conscience et leur base de la chimie organique. Quand j'ai voulu aller à la faculté de médecine en premier cycle, tout le monde disait « Si tu veux aller à la faculté de médecine, tu dois réussir la chimie organique. Tout est question de vie, et j'ai pris ça comme un défi, Et E, j'ai plutôt bien réussi, mais c'est un sujet difficile, mais il a à voir avec les E, les orbitales électroniques de résonance pi de ces molécules qui interagissent et soutiennent les effets quantiques. Donc c'est fondamentalement un milieu quantique enfoui dans nos protéines. Ok. Donc oui, vous mesurez ce qui disparaît lorsque quelqu'un est sous anesthésie. Vous ne mesurez pas la conscience elle-même parce qu'il est impossible de la mesurer de manière positive. Mais oui, comme vous le mentionnez, vous avez récemment écrit un article pour deux intitulé « La conscience est venue avant la vie ». À propos de cet astéroïde, et donc l'idée que la conscience est fondamentale et qu'elle offre en quelque sorte une force motrice, qui crée en quelque sorte la vie, crée la vie humaine, ça ressemble un peu à Schopenhauer, en fait. Il a une sorte de volonté, qui est une conscience, ou je le lirai comme ça, et c'est en quelque sorte une force motrice fondamentale. Est-ce quelque chose comme ça? Peut-on aller dans Z et dans l'astéroïde aussi? Je suis très fasciné par l'astéroïde extraterrestre. Merci, donc oui, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi l'évolution? Pourquoi la biologie a évolué et tout ce comportement d'organismes simples en fait des complexes moléculaires et des organismes simples pour survivre alors qu'il n'y a aucune motivation pour eux de survivre? Il n'y a aucune motivation pour faire quoi que ce soit vraiment pour survivre ou éviter d'être mangé ou trouver un partenaire ou faire quoi que ce soit s'il n'y a pas de sentiment. Tout ce que nous faisons est basé sur des sentiments. Ça pourrait être hédoniste, altruiste, spirituel, bon, vous savez, mais alors pourquoi ces organismes, pendant des millions et des milliards d'années avant même les gènes ou le cerveau, et même là ça n'aide pas vraiment, pourquoi feraient-ils tout ce comportement pour survivre et évoluer et changer pour optimiser? Qu'est-ce qu'ils optimisent? Et donc, il m'est venu à l'esprit, quand j'ai commencé à apprécier l'idée de Roger, que ces moments, oh, les moments protoconscients que j'ai décrits, se produisaient en fait à l'époque de l'origine de la vie, il y a environ 350 millions d'années, et ils auraient pu être l'étincelle de la vie, et j'ai donc écrit un article en 2017, intitulé « L'origine quantique de la vie ». Comment le cerveau a évolué pour se sentir bien, et j'ai en quelque sorte recréé la soupe primordiale avec ses anneaux polyaromatiques, avec les anneaux aromatiques, et qu'ils se rassembleraient et qu'il y en aurait suffisamment pour atteindre le seuil de réduction subjective, et ils commenceraient à avoir ces moments, oh. Ils seraient fondamentalement protoconscients au départ, mais certains seraient agréables et ceux-ci seraient optimisés par le système. Les molécules s'organiseraient elles-mêmes. C'est ce que j'ai suggéré pour optimiser le plaisir et si cela se produisait, ils voudraient que cela se reproduise. Si quelque chose était désagréable, ils voudraient l'éviter, de sorte que ces complexes moléculaires simples se sont développés pour accéder au plaisir et l'optimiser et éviter le déplaisir. Et tout est parti de là et nous voici. Je veux dire, c'est un changement de causalité fascinant que vous avez fait parce que beaucoup de gens essaient de trouver la fonction de la conscience dans l'évolution. Mais vous semblez bien, on dirait que vous suggérez que l'évolution est une fonction que la conscience utilise pour obtenir du plaisir. C'est un type de changement fascinant. Je pense que d'une certaine manière, la conscience est votre vie développée comme un véhicule pour la conscience et nous voici. Vous savez, ouais, et la réduction objective de Roger Penrose aussi. Encore une fois, un autre changement de cause fascinant, ce n'est pas la conscience qui fait s'effondrer la fonction d'onde, mais la fonction d'onde qui cause la conscience. Cela ressemble à ce renversement. Exactement, cela renverse la situation. Ce n'est pas comme tu le dis, la conscience ne cause pas l'effondrement. L'effondrement cause la conscience ou l'effondrement est la conscience. Ouais, et ça pourrait être une théorie de l'identité. David Chalmers a essayé de me piéger en me disant « Eh bien, vous dites que la conscience provoque l'effondrement ou que la conscience s'effondre. L'effondrement, et je n'ai pas reconnu le truc au début, et j'ai réalisé que ce qu'il voulait dire, c'est… Si vous dites que cela provoque l'effondrement, vous pourriez dire, eh bien, c'est trivial parce que ou, désolé, si cela provoque la conscience, eh bien, la respiration provoque la conscience. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de beaucoup de choses métaboliques. Donc ce ne serait pas si utile. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit, ok, la conscience ou l'effondrement est la conscience, et, donc c'est une théorie de l'identité. Ouais, je veux dire, ce n'est pas une mauvaise balle à mordre, je ne pense pas que vous perdiez grand-chose là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Je suis déjà très en danger. Ouais, je veux dire, que diriez-vous aux gens qui argumentent et demandent des preuves, vous savez comment pouvez-vous prouver que ces interactions quantiques, provoquent la conscience? Comment est-ce possible? Pas seulement plus d'algorithmes, plus de langage, plus de théories, qui essaient en quelque sorte d'atteindre quelque chose qui est si fondamental qu'il est presque antérieur à la théorie. Nous sommes en quelque sorte des êtres humains sur une planète qui parle de quelque chose de si fondamental pour nous. Comment pouvons-nous aller au-delà de la conscience pour l'étudier et en avoir une théorie précise? Pensez-vous que, je pense que l'anesthésie est la meilleure solution? Lorsque nous avons commencé cela, les gens ont dit que c'était impossible. Le cerveau est trop chaud, humide et bruyant, etc. Et j'ai expliqué pourquoi cela pourrait ne pas être le cas en raison des zones non polaires dans lesquelles agit l'anesthésie. Et donc, nous étions dans le programme Templeton, pour des collaborations contradictoires de théories sur un certain nombre de théories de la conscience et ils ont investi beaucoup d'argent dans ce programme. Et ils ont choisi 5 théories à tester, dont la nôtre. Et nous avons essayé de venir, nous avons rencontré les partisans de la TII, la théorie de l'information intégrée, Rulio Tinoni et Christophe Kulk et avons essayé de proposer une expérience commune qui, si elle allait dans un sens, réfuterait une théorie, et si elle allait dans l'autre sens, réfuterait l'autre. Et nous n'avons pas pu parvenir à une expérience commune, je ne pensais pas, je ne pense toujours pas que leur théorie soit testable. Et, Templeton nous a donné de l'argent juste pour faire notre expérience, ce que nous avons fait, et ça a marché. En gros, nous avons prédit que nous serions capables de montrer des effets quantiques dans les microtubules à température ambiante, ce qui était un grand pas en avant, car même si cela avait été démontré dans la photosynthèse, nous voulons le montrer dans les microtubules et cela disparaîtrait avec l'anesthésie. Et donc nous avons fait des expériences sur les microtubules avec des durées de vie de fluorescence du tryptophane et nous avons montré que nous obtenons ces résultats à température ambiante. Et nous avons ajouté deux anesthésiques différents, un gaz et un agent soluble, et tous deux ont inhibé l'effet quantique. C'est donc la première étape et nous avons eu d'autres preuves de l'effet de l'anesthésie sur les microtubules et mon collègue Honor Bambondapad au Japon a montré des résonances cohérentes tous les trois ordres de grandeur qui finissent par devenir quantiques si vous allez assez vite. Une autre étude récente a été publiée récemment par Babock sur la lumière ultraviolette et la superradiance. C'est formidable. C'est exactement ce que nous voulons. C'est similaire à l'étude que je viens de décrire. Et en fait, si la superradiance est cet état quantique qui persiste et dans un réseau de tryptophane qui se trouve être un réseau géométrique dans les microtubules. Donc ils étudiaient vraiment les microtubules et les noyaux qui sont faits de microtubules et ils ont montré à la fois théoriquement et expérimentalement cette superradiance dans les microtubules à température ambiante et la prochaine étape serait de montrer qu'elle disparaît avec l'anesthésie. Ok, les psychédéliques sont une de mes fascinations personnelles. J'ai beaucoup écrit sur leur philosophie et vous mentionnez sur cet astéroïde les anneaux psychédéliques. Expliquez-moi s'il vous plaît parce que je suis très intéressé. Ok, eh bien, tout d'abord, je pense que si vous revenez aux vibrations quantiques dans les microtubules à kiloïs, mégas, gigahertz, teres, l'anesthésie, semble-t-il, ralentit tout, et donc, nous espérons, nous avons montré cela dans une certaine mesure. Nous voulons examiner cela de plus près. Je prédis que les psychédéliques le pousseraient plus vite, donc ils pousseraient le système, c'est-à-dire tous les microtubules du cerveau, ou du moins ceux qui concernent la conscience, à aller plus vite et plus dans le domaine quantique. Donc vous obtenez non localité vous obtenez une interconnexion profonde et vous obtenez toutes les choses qui font partie de l'expérience psychédélique. Ouais, je veux dire, ouais, non localité est intéressante. Interconnexion, perte de soi. Donc, vous dites que la phénoménologie de l'expérience psychédélique s'explique par le genre d'effondrement quantique dans le cerveau et l'accélération. Je pense que si vous avez du quantique, disons que vous passez du mégahertz au gigahertz, c'est 1000 fois plus rapide simplement parce qu'il y a un psychédélique à bord. Et puis vous aurez 1000 fois plus d'événements par seconde que sans eux et ils seront plus quantiques et donc non locaux. Donc tout sera connecté à travers le cerveau et peut-être même à l'extérieur du cerveau avec d'autres entités avec lesquelles vous pourriez vous mêler. C'est donc ce que font les psychédéliques, je pense. Et votre argument était que les psychédéliques sont tous des anneaux aromatiques complexes. Donc le cycle 6 et ensuite le cycle 5 qui vous donne un cycle indol. Donc la sérotonine est comme ça et la plupart des psychédéliques ont le 6 et le 5 et que l'on trouve également dans le tryptophane et les hydrocarbures polyaromatiques qui flottent dans l'espace sont fondamentalement le même genre de choses. Ce sont des complexes en anneaux, vous savez, 4 anneaux de 5, qui peuvent avoir un 5 et plusieurs 6, et qui sont très très similaires à la structure du LSD, de la MDMA, du DMT, etc. Ils ont tous des anneaux polyaromatiques. Si cela ne vous dérange pas que je pose cette question, avez-vous déjà essayé ces substances et comment cela a-t-il influencé votre réflexion ici? Quand j'étais plus jeune, je suis allé à l'université dans les années 60, au Vietnam, sous psychédélique. Donc, oui, vous savez, j'ai eu une longue carrière en médecine où je ne voulais pas vraiment faire ça. Je suis maintenant à la retraite. Je n'ai pas repris. Je pourrais peut-être le faire à l'avenir, vous savez, mais je pense que pour moi, c'était très instructif. C'était plus qu'instructif, mais c'est ça qui m'a vraiment fait réfléchir. Et je pense que j'ai eu beaucoup de perceptions et d'appréciations que je n'aurais probablement pas eues si je ne l'avais pas fait. Et maintenant, bien sûr, les psychédéliques sont dans la médecine traditionnelle. Je traite la dépression et le syndrome de stress post-traumatique et toutes sortes de choses. Et nous utilisons de la kétamine. J'ai récemment travaillé à l'hôpital il y a environ un mois et mes collègues ont administré des gouttes de kétamine à ces personnes déprimées et cela semble fonctionner. Je me demande quelle est votre propre conscience personnelle et comment vos théories ont changé votre vie, votre conscience personnelle et vos propres idées sur votre mortalité, des choses comme ça. Comment cela a-t-il changé votre façon de voir le monde? En ce qui concerne la mortalité, je ne m'inquiète pas de la mort, je ne m'en soucie vraiment pas. Je pense qu'il s'agit d'une des possibilités ici. Eh bien, laissez-moi revenir en arrière. Donc, vers 2000, la clinique Pimon et Peter au Royaume-Uni a découvert ces expériences de mort imminente, ces expériences hors du corps et les a caractérisées. La BBC a fait une émission à ce sujet et leur a demandé « Eh bien, comment expliquez-vous cela ?» Et ils ont dit « Nous ne pouvons pas demander à Penrose et Ameroff parce qu'ils ont cette idée folle. » Donc Roger n'a pas voulu y toucher. Donc, la BBC est venue me voir et je lui ai dit « Eh bien, ce que je dirais, c'est que, lorsque le sang cesse de couler, l'information quantique dans les microtubules se dissipe dans l'univers en général. La géométrie spatio-temporelle, qui est de toute façon là où elle se trouve normalement entre les années, pourrait devenir totalement non locale, mais resterait enchevêtrée comme une sorte d'âme quantique plutôt que de simplement se dissiper. Donc, elle resterait unie et il se pourrait que la conscience existe après la vie et que l'expérience de mort imminente, si le patient est réanimé, elle retourne à l'intérieur, mais si ce n'est pas le cas, nous ne le savons pas. C'est donc une possibilité pour l'au-delà. Je ne prétends pas avoir de preuves à ce sujet. Je laisse les autres s'en inquiéter. Mais ce que je pense, c'est que tant que nous ne savons pas que la conscience dans le cerveau est un événement purement classique, nous ne pouvons pas exclure la non-localité et la conscience en dehors du cerveau. C'est fascinant parce que cela explique en quelque sorte le maintien de l'individualité, mais aussi la transcendance. Et cela explique le type de connexion non locale entre les deux qui reste et ensuite vous pouvez mourir, monter et redescendre. C'est en quelque sorte l'expérience de mort imminente et de sortie du corps, n'est-ce pas? Et l'unité ou l'intérieur du cerveau en raison de l'enchevêtrement et de la liaison, je pense, est également très importante, mais elle peut aussi être non locale en dehors du cerveau. Dans certaines conditions. Ok. Ouais, je veux dire, encore une fois, Schopenhauer m'est venu à l'esprit. Il a une citation, c'est quelque chose comme quand nous mourons, nous ne nous endormons pas, tout le reste se réveille, ou plutôt il ne dort jamais. C'est ce qu'il dit. Ce qui, je pense, est une belle citation. Stuart Amoff, ravi de vous rencontrer et merci d'être venu au festival. Merci beaucoup, j'ai apprécié.